que je vous avais donné il y a 2 semaines. Est-ce que vous vous souvenez du titre ou d'un mot ou une idée? Rien du tout? Oui? Non? La terre promise. Entre dans la terre promise. Alors, on va faire la suite. On avait parlé de Moïse qui arrive. Donc, Moïse sort le peuple d'Égypte. Il les sort de l'esclavage. Et puis, ils arrivent aux frontières de la terre promise. Ils ont passé 14 mois. Ils ont vu la faveur de Dieu. On leur a donné les commandements sur le mont Sinaï au travers de Moïse. Voilà, il se passe beaucoup de choses. Et puis, il envoie 10 espions. D'accord? Sur les 10 espions, 10 reviennent, 12 espions, pardon. Sur les 10, 12, 10 reviennent complètement apeurés. Parce qu'ils ont vu les Anaks, ils ont vu les géants, ils ont peur. Ça leur rappelle leur passé, ce qu'on avait dit, le passé qu'ils avaient vécu dans l'esclavage. Et il y en a deux qui reviennent enflammés. Et là, on a surtout un, c'est Caleb. Caleb qui exhorte le peuple et qui disait, emparez-vous de la terre promise, levez-vous, on y va. Il y avait vraiment la promesse de Dieu devant les yeux. Et il voulait entrer dans la terre promise. Donc on avait parlé de ça. Donc, le peuple a été retenu par ses peurs, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu écouter plutôt les 10, et ils sont partis faire un petit tour dans le désert qui a duré, voilà, une quarantaine, 40 ans, voilà. Et puis, 40 ans dans le désert, et là, on arrive à la suite. Qu'est-ce qui se passe? Donc, pendant 40 ans, notre petit Josué a grandi, c'est devenu un homme spirituel, un homme de Dieu aguerri, un commandant chef, voilà le successeur de Moïse. Et là, c'est Josué qui va être choisi. Et pendant ces 40 ans, lui, il n'a pas perdu la promesse de vue. Pendant ces 40 ans, il se dit non, c'est pas possible, il faut qu'on rentre dans cette terre. On est passé à côté. On a perdu 38 ans. On a tourné, on a tourné, on a tourné, ils sont tous morts, et maintenant il y a une nouvelle génération, et c'est possible d'entrer dans la terre promise. Ça va? Donc on en était arrivé là. Donc, chapitre 1 de Josué, eh bien, qu'est-ce qui se passe au tout début du chapitre 1? Josué passe du temps avec Dieu, et là, Dieu va lui rappeler la promesse. Voilà, la promesse c'est ça, il y a un pays pour vous, il y a telle promesse, telle promesse, telle promesse, fortifie-toi, prends courage, lève-toi, vas-y. C'est comme ça que ça se passe. Et là, ce qui m'intéresse, c'est Josué chapitre 3, verset 5. Ah, j'ai perdu ma femme, je voulais de l'eau. Ah, Antonia, t'es gentil. Alors, Josué chapitre 3, verset 5. Donc, imaginez un petit peu le contexte. On a le peuple qui a passé 40 ans dans le désert, ils sont épuisés, il s'est passé beaucoup de choses, on fait un saut de 40 ans, et puis un peuple un peu abattu, ils espèrent plus trop dans les promesses de l'Éternel, et puis Josué qui passe du temps avec Dieu, il reçoit la promesse, il se lève, il n'avait pas perdu la promesse de vue, il vient devant le peuple et il dit, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Moi j'imagine le peuple, t'es gentil, mais pour moi demain, c'est juste la répétition de la routine d'aujourd'hui. Oui, il vivait comme ça, répétition, routine après routine. Et lui, il arrive et il dit, sanctifiez-vous car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Alors le thème de ma prédication, c'est fais de l'avenir ton ami. Et Josué, pourquoi je prends ce texte et pourquoi j'aime l'histoire de Josué? Parce que Josué a compris comment faire de l'avenir son ami. Ça marche? Gardez ça en tête. Ça. Donc Josué, il parle à un peuple épuisé, abattu, sans espoir. Alors pour nous, finalement, quand vous pensez à votre avenir, à quoi est-ce que vous pensez? Quel est le sentiment qui vient dans votre cœur quand vous pensez à votre avenir? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous parle quand tu dis, voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans? L'espérance, ouais. Alors il y a on cherche à faire certaines choses, à avoir une certaine réussite. Merci beaucoup. On court après certaines choses humaines, mais finalement, voilà. Quelle est notre attitude? Et eux, ils espéraient plus vraiment en grand chose là. Ils espéraient plus en grand chose. Mais Dieu choisit Josué. Il le lève là au milieu et il dit maintenant, parle-leur et tu leur dis que, eh bien, demain, je vais faire des merveilles. Alors là, ici, il écrit sanctifiez-vous car demain, je ferai des prodiges. Il y a une version qui dit consacrez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles. Merveilles, prodiges, d'accord? C'est un peu, c'est plus ou moins, c'est la même racine. Consacrez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles. Alors, des merveilles. Nous qui sommes des bons Français, on a perdu la notion et la définition de ce que veut dire merveille. Alors, les Américains, eux, tout est merveilleux. Wonderful, yeah, tout est beau. Tout. Le fait de leur faire la bise, c'est wonderful, tu vois, c'est quand même fort. Nous, les Français, on est très sceptiques. Pour que quelque chose nous émerveille, il en faut beaucoup. Il en faut, mais énormément. Et on a perdu vraiment la notion de merveille. Et quand Dieu nous parle, il dit, demain, je vais faire des merveilles. Merveille, c'est quelque part un mélange entre la surprise et la joie. Il y a quelque chose qui te surprend et instantanément, ça suscite la joie en toi. Et là, c'est ce mot-là qu'on veut s'arrêter dessus. Là, les merveilles. On a perdu ce mot-là. Et là, Josué leur dit, attendez, vous avez passé 40 ans, vous avez galéré, mais demain, il va se passer vraiment des merveilles. C'est vraiment le mot adapté. C'est quelque chose qui va vous surprendre. C'est quelque chose qui va vous saisir. C'est quelque chose qui va vraiment vous transformer. Ça va? Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, le projet de Dieu, c'est qu'ils puissent entrer dans leur terre promise. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on a vu la semaine passée que premièrement, il fallait qu'ils puissent faire du passé le passé, qu'ils puissent voir l'avenir, c'est-à-dire écouter la voix de Caleb qui dit « levez-vous ». Donc, la semaine passée, nous-mêmes, on a pris position, on a dit « Seigneur, tu nous as donné des promesses, on veut prendre position aujourd'hui ». On a repris position par rapport aux promesses que Dieu nous a données personnellement. Et puis, maintenant, eh bien, après ce « levez-vous », ils se lèvent, ils s'engagent, eh bien, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, il y a le Jourdain. À peine ils s'engagent que le Jourdain est déjà là. Ils ont encore rien fait, qu'il y a déjà un obstacle. Le Jourdain. Et alors là, Dieu va donner les recommandations à Josué. Il va dire, Josué, voilà ce que tu vas faire. Tu vas utiliser les sacrificateurs. Ils vont porter l'arche bien devant nous, bien devant nous, bien devant nous. Et puis, ils vont mettre leurs pieds dans l'eau. Et quand ils vont mettre leurs pieds dans l'eau, l'eau va s'arrêter. Waouh. Et Dieu dit, au travers de ça, je vais te rendre puissant et grand aux yeux d'Israël. Comme ça, ils vont te suivre. Et donc, on va lire. Qu'est-ce qui se passe? Josué 3, versets 15 à 17. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Alors, on peut retenir beaucoup de choses. Eh bien, on aurait pu imaginer que Dieu, tout comme il l'a fait avec Moïse, vous voyez, Moïse, quand il est arrivé face à la mer, il y a un coup de bâton, et là, le vent est arrivé, c'est un prodige, c'est miraculeux. Et là, ça se passe pas comme ça. On voit bien qu'au verset... Au verset 16, donc tu nous mets le verset 16, voilà. Alors, en fait, ils arrivent, ils mettent les pieds dans l'eau. Et là, vous avez les sacrificateurs, tout ça, c'est une nouvelle génération, les anciens sont plus là, ils arrivent, ils mettent leurs pieds dans l'eau, et là, il se passe rien. Nous, on pense que c'est instantané, mais clairement, c'est pas du tout instantané à ce moment-là. Ils mettent leurs pieds dans l'eau, il se passe rien, et là, ils attendent. Et là, moi, j'imagine notre petit Josué qui est à côté, qui dit, ça va arriver, continue. Et eux, ils sont là, bah, écoute, imaginez s'ils avaient fait demi-tour. Ils ont dit, non, mais attends, il ne se passe rien, t'es gentil, Josué, mais là, il ne se passe rien. Et le verset nous dit bien que les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam. Cette ville, si vous regardez les cartes historiques, c'est à 30 km de l'endroit où ils ont mis leurs pieds. Donc, il faut un temps avant que l'eau se vide. C'est comme une baignoire. Au début, vous savez les baignoires, quand vous faites un bon bain, vous ouvrez, vous attendez 30 secondes et puis vous avez l'impression que ça se vide pas. Et d'un coup, mais au début, ça se vide pas. Et là, c'est ce qui se passe. Ils auraient pu douter. D'accord? Et puis, ils se mettent là. Et là, Josué qui leur dit, allez, allez, allez. Et d'un coup, leur foi commence parce qu'ils ont dû faire un pas de foi. Ils ont dû croire. Au début, c'est le pas de foi. Ils mettent leurs pieds dedans, ils attendent. Et ensuite, quand ils ont vu l'eau commencer à baisser, là, la foi a grandi. Ils se sont dit, waouh, il se passe quelque chose. La promesse de Dieu se réalise. Ça a pris du temps. D'accord? Première chose qu'on retire. Alors, si on réfléchit bien, ils sont là, ils portent quoi? Dieu utilise les sacrificateurs avec l'arche. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Les tables de la loi. Qu'est-ce qu'il y avait au-dessus? Le propitiatoire, pardon, c'est quoi? C'est la référence à l'amour de Dieu et sa miséricorde. Et à l'intérieur, c'est l'alliance de Dieu. Donc Dieu est en train de remettre un point fort en disant, voilà, c'est avec cette alliance, c'est avec mon amour que vous allez vous engager, et puis là, vous allez voir ma gloire. Mais j'ai besoin de vous, donc toi, il faut que tu portes ça, tu rentres avec moi dans l'eau, et avec moi qui je suis, on va faire des exploits. Et c'est ce que Dieu est en train de faire passer là comme message. Vous me suivez un petit peu ou pas? Et aujourd'hui, vous allez me dire, aujourd'hui c'est la Pentecôte, purée, il prêche pas le Saint-Esprit, c'est pas le... Ah, mais on y vient. On y vient. Pourquoi? Pourquoi j'ai pris ce passage-là? Parce que Dieu est un Dieu de signes. C'est un Dieu, dans les temps, il a toujours marqué les choses. Et souvent, on est impressionné parce que plus on découvre la parole de Dieu, plus on est impressionné par ce que Dieu a fait, ça nous dépasse. Et là, Dieu est en train de marquer encore une fois son temps. Il fait pas un miracle comme avec Moïse. Il dit voilà, l'alliance, on revient à l'alliance que j'avais donnée à Moïse. Avec cette alliance, on va aller plus loin. D'accord? Avec ma présence, on va aller plus loin. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, c'était quoi? C'était à l'époque, avant d'être l'effusion du Saint-Esprit, la puissance, c'était une des sept fêtes juives et une des trois les plus importantes. C'était le Pentecôte, ça veut dire 50e jour après la Pâque. Ça veut dire que, à ce moment-là, il fêtait quoi? Il fêtait quoi? Le don de l'alliance, des tables de Moïse. Il fêtait ça. Ils étaient contents. Parce que Dieu avait donné à Moïse cette alliance. Et c'est ça qu'on fêtait. Et qu'est-ce qu'a attendu Dieu pour libérer sa puissance? Le jour de la Pentecôte. Et c'est pas anodin, encore une fois. Parce que là, Dieu est en train de dire, il y a une nouvelle alliance maintenant. Quelque chose de nouveau. Quelque chose qui nous débarrasse des choses anciennes. Et c'est ça qui nous marque. Tout commence là. On fête la Pentecôte, le don des commandements à Moïse sur le mont Sinaï, d'accord? Mais on fête en même temps l'alliance de Dieu avec son peuple. Dieu avait fait une alliance. Et il l'avait pas oubliée. Alors, 50 jours après la résurrection de Christ, qu'est-ce qui se passe? 50 jours après la résurrection de Christ, du coup. La nouvelle Pentecôte, non? Ouais? Johan, c'est ça ou c'est pas ça? Donc, c'est la nouvelle Pentecôte. La nouvelle alliance. Le Saint-Esprit qui tombe. Ça va? Alors, elle nous remémore aussi quoi? C'était il fêtait aussi la, comment on appelle ça? J'ai perdu le mot. J'ai perdu mon mot. Les moissons. Voilà, les moissons. C'était le temps de la moisson. Donc, il fêtait le temps. Voilà, c'est la moisson. Voilà. Et nous, on voit quoi? C'est la moisson aussi au moment du Saint-Esprit, non? Et s'il se passe 3000 âmes d'un coup, une nouvelle puissance, 3000 âmes, moisson. Rien n'est anodin. Alors premièrement, pour conclure le petit passage qu'on a fait entre Caleb, Josué et tout ça, eh bien il y a trois clés. Trois clés pour faire de l'avenir notre ami. On a vu que Josué, il a dit consacrez-vous. Consacrez-vous. Ça veut dire quoi consacrez-vous? Consacrez-vous, ça veut dire ça vient de la racine du mot couper, du mot à neuf, mettre à mis à nouveau. C'est-à-dire que c'est coupé du passé. Et il dit au peuple, vous avez besoin d'être coupé du passé. Alors certes, il n'y avait plus tout l'héritage. Ils avaient un héritage spirituel, mais il n'y avait plus tous ces gens-là qui avaient contesté, qui étaient prêts à lapider Moïse. Ils sont tous morts dans le désert. Mais là, ils avaient besoin de couper avec leur passé pour entrer dans des choses nouvelles. À ce moment-là, Dieu remet au centre de toute chose sa loi et puis son amour, sa miséricorde, parce que c'est le chemin. Et il lève un homme et il dit, vas-y, vous y allez. Et puis là, on a nos petits gars qui avancent là, ils se mettent au milieu, et donc la première chose c'est sanctifiez-vous, oubliez le passé. Donc pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Sanctifiez-vous. Qui nous sanctifie? Qui est celui qui nous rend libres? C'est Jésus. D'accord? C'est-à-dire que quand on accepte Jésus dans notre vie, à un moment donné on est considéré comme saint. C'est-à-dire que sanctifiez-vous, toi, est-ce qu'il y a des saints ici? Ben nous on est sanctifiés. Et eux, à ce moment-là, c'est la même chose, c'est sanctifiez-vous, revenez à moi et je vais m'occuper de vous. Oh là là, je perds mon... Et Dieu est fidèle, ça marche. Et là, il commence à montrer sa main. Donc la première clé, consacrez-vous. La deuxième, que va faire Moïse? On a nos petits gars là qui sont dans l'eau. Et alors, au moment où la promesse s'accomplit, que les eaux se coupent, c'est souvent là où nous, on a tendance à, voilà, on a vu la réalisation d'une promesse de Dieu, et puis on laisse tout en plein, on sort. Mais imaginez-vous si les gars, ils étaient avec leur arche, Et puis, ils avaient dit, c'est bon, l'eau s'est coupée, on la pose là, on traverse. L'eau revient, et puis le peuple peut pas traverser. Donc Dieu décide d'utiliser les sacrificateurs. La bénédiction qui va tomber sur les sacrificateurs va être un bénéfice pour le peuple. Parce que le peuple est au bénéfice de ce que Dieu veut au travers des sacrificateurs. Et alors eux, ils doivent tenir la baraque. Hein. Imaginez-vous des milliers de personnes qui passent, et eux qui tiennent. Et Josué, il dit, c'est pas fini. Maintenant que tout le monde est passé, eh bien, tu prends 12 gars de 12 tribus, tu prends les pierres et tu vas les mettre de l'autre côté du Jourdain. Et ça va vous aider à vous rappeler de ce que j'ai fait. Donc deuxième clé, c'est quoi? C'est la patience. La patience en les promesses de Dieu, parce que ils sont entrés dans l'eau. L'eau s'est pas arrêtée d'un coup. D'accord? Ensuite, la troisième clé, c'est Josué. Que va faire Josué? Josué, il va prendre 12 pierres, il va dire au sacrificateur, dégage d'un pas un peu là, et là où t'étais, je vais maintenant faire une sorte d'autel à Dieu, pour avoir une reconnaissance, la reconnaissance envers Dieu. Parfois, la louange, nos mots, ils n'ont pas assez d'impact pour reconnaître ce que Dieu fait. On est limité dans nos mots pour dire à Dieu combien il est grand. On est limité dans et c'est pour ça que là, on pose un acte d'adoration, on pose quelque chose où Dieu va dire, ah, tu te souviens. Et on fait quelque chose, un moment fort pour que les gens se souviennent après nous. Il y a un héritage derrière. Ça va? Alors, trois clés pour faire de l'avenir ton ami, c'est quoi? C'est consacre-toi. Ensuite, sois patient dans la promesse de Dieu. On a vu la semaine passée, je m'engage dans les promesses, je me souviens des promesses de Dieu, je m'engage. C'est-à-dire que je fais un pas et j'ai un Jourdain. Ben maintenant, je suis patient, je fais ce que Dieu me demande, et ensuite, une fois que c'est accompli, je lâche pas tout sur place, j'amène la reconnaissance à Dieu. J'amène pas seulement des mots, pas seulement une louange de dimanche matin, mais je fais un acte pour le Seigneur. C'est toujours Dieu, il fait qu'on puisse poser des actes. Alors aujourd'hui dans nos vies, il y a deux semaines, on a dit on va se souvenir des promesses de Dieu. Alors on s'est souvenu chacun des promesses de Dieu pour nos vies, pour nos familles, pour la ville, pour tout ce que vous voulez. Vous vous êtes souvenu de certaines choses, vous avez déclaré, Seigneur, c'est bon, moi je retourne dans mes promesses. Et finalement, il y a un Jourdain. C'est quoi le Jourdain? Le Jourdain, c'est la vie. C'est le courant de la vie actuelle. Tu vas au boulot, t'as vite oublié les promesses que Dieu te demande parce qu'il y en a un qui t'a râlé dessus, ça s'est mal passé, et puis tout de suite ton caractère ressort. Tout de suite, les choses négatives de l'homme ressort, et puis l'homme spirituel, il s'efface un peu, puis l'homme charnel reprend la place. Eh bien, ça, c'est le courant de la vie. Et Dieu dit, maintenant, je veux que tu traverses. Je veux que tu traverses. J'ai une promesse pour toi. La promesse pour nous, c'est quoi? C'est l'espérance, la vie éternelle. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai une espérance maintenant. Maintenant, je suis dans ce temps de ma vie où je traverse, je marche dans ce monde. Mais dans ce monde, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'une nouvelle alliance. J'ai besoin d'une puissance. J'ai besoin d'une autorité parce que sinon, tout seul, je vais être embarqué. Avec mes raisonnements humains, si je suis juste une religion, des rites, des façons de faire, mais tu vas être emporté. Et Dieu dit, mais t'as besoin d'une puissance. Alors nous, on est là, on a accepté Jésus. Et moi, je veux parler à toutes les personnes dans cette pièce. Dans cette salle, si t'as jamais accepté Jésus, c'est quoi accepter Jésus? C'est faire demi-tour. Tu vivais ta vie d'une certaine manière, ton éducation, voilà, comment t'as été formaté, t'as un système de pensée, tu veux un bon boulot, tu veux réussir, tu veux toutes sortes de choses, ou alors peut-être t'es atteint par toutes sortes de peurs de ton passé encore une fois, et tu vis sur ces peurs, ces craintes, t'es complètement esclave, t'es timide, t'es introverti, ou alors il y a plein de choses par lesquelles on est lié. Et tu vis ta vie comme ça. Et Dieu dit maintenant, écoute, moi je suis venu sur cette terre, je t'ai donné ma vie. Accepte-moi. Je vais venir vivre en toi. Et là, tu fais demi-tour. Tu changes d'orientation. Tu changes ta façon de penser. D'abord, c'est un acte que toi tu fais. Seigneur, ok, j'ai entendu ton message. Mais je comprends rien. Mais je veux quand même faire un pas. Tu fais un pas, Dieu se manifeste dans ta vie. La Bible nous dit quoi? Que Dieu change nos cœurs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu changes d'orientation, tu marches différemment. Tu vis une vie nouvelle, on appelle ça. Mais ça s'arrête pas là. Le problème, c'est qu'on va dire, je suis sauvé, je reçois le Saint-Esprit. On va voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ça. Alors, on a vu, hein. Alors, on va lire Galates 5, 19, 25. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Alors ça, c'est ce dans quoi nous vivions. D'accord ? Ensuite, verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Elle est où notre terre promise ? Le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors on aime bien lire ça. Et souvent on associe ça. Ça, c'est quand tu acceptes Jésus dans ta vie. Lorsque tu dis « Jésus, viens vivre en moi ». Lorsque tu lui dis « Je te fais de la place maintenant ». Avant, il y avait toutes ces choses-là dans ma vie. Vous voyez la partie haute. Et on peut tous se reconnaître dans quelque chose. La Bible dit « Tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu ». Alors peut-être qu'il n'y a pas le mot qui correspond à ce que tu as vécu, ce qui a fait de ta vie ce qu'elle est, mais on se reconnaît tous là-dedans. On a Thierry qui aime bien dire, on est tous faits de la même pâte. Hein, Thierry? Et puis qu'est-ce qui se passe? Eux, ils héritent pas du royaume de Dieu. Mais quand tu acceptes Jésus, tu dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Je me rends compte que mon système de pensée, ma façon de vivre, mais où est-ce que ça m'amène tout ça? Alors au début, ça peut peut-être juste être une prise de conscience. Mais la parole de Dieu produit des choses en nous. Et là, t'acceptes Christ. T'acceptes la vie de Christ en toi. La Bible dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu deviens un sacerdoce royal. Tu es ce sacrificateur qui est dans l'eau maintenant. Et alors là, tu deviens porteur de la présence de Dieu. Christ vient vivre en toi. Et qu'est-ce qu'il fait, Christ? Il fait le ménage. Il fait le ménage dans notre caractère, il fait le ménage dans nos attitudes, il fait le ménage dans toutes les choses qui font qu'on n'est pas agréable à lui. Son sang a coulé, Dieu veut nous voir comme saints, et il nous voit saints au travers de la vie de Christ, mais nous on a du boulot à faire. Et la Bible dit que, eh bien, l'Esprit de Christ vient en nous, et qu'est-ce qu'il nous donne? Alors que t'es triste, la joie vient en toi. Christ vit en toi, et si Christ vit en toi, ça commence à rayonner. Mais là, il n'y a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit, là. Là, c'est la vie de Christ en toi. Christ est là. Christ est saint. Christ te transforme, te libère. Il fait toutes choses nouvelles en toi. Ça va? Toutes choses deviennent nouvelles avec lui. Le problème, c'est quand on veut Christ comme sauveur et qu'on ne le veut pas comme Seigneur. T'es mon sauveur, je continue à faire mes histoires, mais t'es mon sauveur, je suis saint. Et t'es comme ça, en fait. Tu veux le saint, mais tu veux garder tes choses. Mais ça marche pas, t'es dans un combat. On a parlé de cette dualité en nous. Et la Bible dit, maintenant, tu t'abandonnes ces choses. C'est ton choix d'abandonner. Tu fais le pas là, et moi, je te fortifie. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça, la foi. Je mets la foi en action, je sais pas ce qui va se passer, mais je fais un pas, et Dieu maintenant vient, comme il vient vivre en moi, il commence à régler les choses, il règle les choses. Je deviens quelqu'un de joyeux, je deviens quelqu'un qui aime, je deviens quelqu'un qui a de la patience, la colère, elle est balayée. Moi, j'ai vu des jeunes, là, aux fondamentaux, ils disaient, moi, je me mets en colère en voiture. En une semaine de temps, c'était réglé, ils se mettaient plus en colère. Et c'est des petites choses de la vie quotidienne que Dieu commence à changer. Il y a des libérations qui s'opèrent. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au moment donné où tu acceptes Christ dans ta vie, eh bien, tu reçois ton identité. Ton identité en Christ, tu deviens un sacrificateur. Tu deviens un sacerdoce royal. Tu deviens celui qui peut toucher le cœur de Dieu. Tu as une identité, tu prends ton identité. Tu ne te définis plus comme qui tu étais avant, quelqu'un de caractériel, de furieux, d'en colère, de jaloux, de tout ce que tu veux. Non, t'es quelqu'un de nouveau. Tu sais à qui tu appartiens, tu sais où tu vas, tu sais pourquoi tu y vas, tu sais comment tu y vas. T'appartiens, la Bible nous dit qu'on est enfant de Dieu. Tu deviens son enfant, tu deviens co-héritier de Christ. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Tu deviens co-héritier de Christ. Toutes ces choses, elles ne peuvent plus vivre en toi. Christ, il vient, il frappe à ta porte, il dit « Laisse-moi plus de place, laisse-moi plus de place. Je veux vivre en toi, je veux vivre en toi, je veux vivre en toi. Plus, 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 plus. » Et c'est ça qui se passe. Ça va ? Alors, comment reconnaît-on Jésus ? Jean 1, versets 32 à 33. On a vu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il faisait ? Il baptisait d'eau, baptême de repentance. Vous êtes endormi là, ça va pas. Baptême de, c'est quand même mieux. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jésus, l'Esprit de Dieu qui vient, impressionnant. Et puis, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. On reconnaît Jésus parce que Jésus baptise du Saint-Esprit. Jésus est différent de Jean-Baptiste. Jésus, lorsque tu l'acceptes, ok, viens vivre en toi. Mais Jésus, on le reconnaît parce que c'est un Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Lui seul, c'est pas les hommes en imposant les mains. C'est pas parce qu'on prie qu'on baptise. Non! C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Lui et lui seul a ce pouvoir-là. Et lorsqu'il touche, eh bien, c'est lui qui le fait. C'est pas les hommes, c'est pas l'ambiance, c'est pas la musique. C'est que la parole de Dieu, elle est prêchée, ça suscite quelque chose en toi. C'est même pas explicable. Et chacun a son expérience. Vous me suivez? Ça va? C'est Jésus qui baptise. Et finalement, si Jésus vit en toi vraiment, rien ne l'empêche aujourd'hui de te baptiser. Il n'y a rien qui l'empêche. Rien. Pourquoi ? Hébreux, s'il te plaît. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait à la Pentecôte, il peut le faire aujourd'hui, il peut le faire dans ta chambre. Moi, j'ai entendu une fille, elle m'a fait galérer. Et puis le Saint-Esprit me dit, tu vas, il faut que tu parles du Saint-Esprit. On était au groupe de jeunes et puis Saint-Esprit me disait, il faut que tu parles de moi. Et pendant 3-4 mois, je parlais. Et puis les gens se rebellaient. Les gens se rebellent au Saint-Esprit. Mais non, tu comprends, c'est une seule fois. Et puis il y a toutes sortes de doctrines, de théories, de vents fumeux. Et puis finalement, les gens vivent rien, mais ils savent tout. Et puis toi, t'as un moment donné, tu sais plus expliquer parce que, mais vis-le, mais c'est pas possible. Et puis ça dure. Mais je dis, je peux plus rien dire. Va dans ta chambre, lis ta Bible, fais quelque chose. D'accord ? Hein, Eva ? C'était toi, non ? Et Eva, elle m'a pénibilisé la vie. Hein, Eva ? Jusqu'au jour où elle t'a rempli dans ses toilettes. Vous voyez, c'est quand même fort, hein ? Hein, Eva, je t'ai dénoncé. Dans ses toilettes. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est impressionnant comment le Saint-Esprit agit. Il nous retourne, il change notre entendement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je vous ai parlé de toutes ces histoires de tabernacle et tout ça ? Parce que Josué a compris comment faire de l'avenir son ami. On dit que c'était un homme qui était rempli, qui vivait par l'Esprit. Et encore, à ce moment-là, il n'y avait pas la notion de baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait, il saisissait des hommes, voilà. Et à des moments ponctuels, il faisait des miracles, des prodiges au nom de Dieu, il y avait la gloire de Dieu. Et puis, il y a cette notion de la Pentecôte, ce 50e jour. Et Dieu va faire un signe puissant ce jour-là. D'accord ? Acte 1, versets 4 et 5, qu'est-ce qu'il va dire ce jour-là ? Il va dire, il leur recommanda quoi ? Comme il se trouvait avec eux, il leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. La promesse. Encore une fois, la promesse qui avait été faite à Abraham, à Moïse et Josué qui est rentré dedans. Il a fallu attendre tout ce temps. Les peurs, les craintes, toutes les choses qui sont dans nos têtes nous éloignent de la promesse de Dieu. Et là, encore une fois, cette promesse, et Jésus leur dit, allez à Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus était là au moment où il est parti. Voilà, il est parti, il a donné sa vie. Il nous a libérés. Souvenez-vous, le propitiatoire, c'est l'amour, la miséricorde de Dieu. Il a manifesté son amour, sa miséricorde. Ça, c'est notre nouveau, la croix, c'est notre nouveau propitiatoire. C'est voilà, Jésus, la croix, tu m'as sauvé. Je veux être reconnaissant pour cette croix. Voilà, tu m'as libéré, tu m'as lavé de mon péché. Mais maintenant, où est-ce qu'il faut aller? Lui dit, attendez, il y a quelque chose de plus. Qu'est-ce qui se passe, Amina? Oui, avant. Ouais, bah, je vais t'expliquer après. Ouais, mais on parle pas de ça. Je vais t'expliquer après. Ça va? Pas de problème. Alors, vous avez, il y a cette notion vraiment du baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, la repentance. Voilà, je fais demi-tour. J'abandonne mon ancienne vie. Je dis, Seigneur, je t'accepte. Voilà, maintenant, je t'accepte. Je veux aller dans des choses nouvelles. Et là, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et là, le jour de la Pentecôte, faut imaginer qu'il y avait tous les Juifs. C'était une fête folle. Les Juifs venaient de partout. Ils arrivent à Jérusalem. Il y a plein de Juifs partout. Ils viennent louer, ils sont contents pour l'alliance, là. Ils font la fête. Ils font leur rite. Merci pour Moïse. Merci pour la loi. C'était super. C'est bien. Ils sont contents. D'accord? Et puis, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Ce jour-là, les 120, remplis de feu. Je suis mort, maintenant il y a une nouvelle alliance. Rentrez, je vous remplis de feu. Et puis qu'est-ce qui se passe le temps de la moisson? Pierre se lève, on pense qu'ils sont remplis de vin. Et puis 3000 personnes se donnent à Jésus. Et là, il y a la main de Dieu qui dit, maintenant ça va être nouveau, maintenant ça va être différent. Maintenant on va utiliser ma puissance. Vous l'avez en vous, je vis en vous. Et Saint-Esprit dit, je vais vivre en toi, tu dois plus porter quelque chose. Je vis en toi. Et c'est pas juste une question de Christ en toi, les fruits de l'Esprit. Vous savez, il y a de très bons chrétiens qui sont très bien et qui font de bonnes choses, qui vivent les fruits de l'Esprit parce qu'ils ont Christ en eux, mais qui n'ont pas la puissance, qui n'ont pas le feu en eux. Et il a compris ça, Josué. Il a dit, mais moi, j'ai besoin de quelque chose de plus. Et nous, on veut comprendre ça. On peut vivre une vie chrétienne très bonne, avec les fruits de l'Esprit. Et le Saint-Esprit a mis les arts de son Esprit en nous, qui fait qu'on va arriver à l'éternité, on aura notre passeport, on va être scanné. Puh, t'appartiens à Dieu, t'es enfant de Dieu. Puh, t'appartiens à Dieu. Puh, hop. Et puis tu rentres, c'est bien. Mais est-ce que tu veux vivre juste une vie comme ça? Moi, je tape. On est dans le Jourdain, c'est terrible. Il suffit d'écouter vos amis, de parler à gauche, à droite. Les vies sont brisées, les cœurs sont. Mais c'est le désert. Et il dit maintenant, il y a une puissance qui va venir sur vous et vous serez quoi? Mais témoin de mon amour, témoin de ce que je veux faire, que je veux sauver les gens, que je veux que vous veniez à moi vivre une vie nouvelle, une espérance, la vie éternelle en moi. Mais il faut que ça passe par la puissance. C'est son choix. Et le Saint-Esprit vient pas juste quand t'es là et doucement. On dit que c'est un vent, c'est un feu. Tu peux pas le canaliser, c'est une dynamite. On dit que c'est une puissance. Ça vient du mot dynamos, je sais plus quoi. Ça veut dire que ça explose. Ça explose. C'est un feu. Ça dépasse. Alors chez nous, les charismatiques, on aime bien, il y a une manifestation, on pense que les manifestations... On parle pas de ça, on parle d'un feu qui bouillonne en toi. C'est plus que juste aimer les gens. C'est tu t'es zélé, tu peux pas t'empêcher, faut que tu prêches l'évangile, faut qu'il se passe quelque chose dans la vie des gens. La semaine passée, on était à Honfleur. Moi, je suis parti à Honfleur avec aucune arrière-pensée. J'ai dit, on va passer un bon week-end, ça va être bien. J'ai dit, on va faire un culte avec Anne et Ghislain, ça va être super, on va faire un petit truc tranquille. Et puis il nous présente un couple du vendredi soir. Et puis on parle. Et moi dès que ça parle trop cacahuètes, bonbons, voiture, ça m'énerve. Moi il faut qu'il y ait un peu de spirituel quand même, sinon je m'ennuie. Donc à un moment donné je leur pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe dans qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Ils me racontent leur vie et tout ça. Et puis je dis mais Seigneur tu veux faire quelque chose là? Tu veux faire quelque chose? Et ils avaient, si vous voulez, ils veulent lancer l'église à Honfleur, et ils avaient fait des tracts. Et ces gens-là avaient répondu aux tracts, d'accord? Mais ils arrivaient jamais à se voir, enfin, compliqué, voilà. On est fatigué cette semaine, on se voit pas, vous voyez. Voilà, c'est pas trop de vie. Et puis, ils sont là, et je leur parle, et je vois qu'ils ont un feu dans leur cœur. Ils ont envie d'aller vers Dieu, et tout ça. Et je dis, mais écoutez, moi, je vous invite. Le 9 octobre? 6 octobre? Venez, on a un séminaire ici, et vous allez voir un peu ce qu'on vit. Et puis, ah oui, super, on vient. Ah, juste, ça commence bien. Et puis je dis, écoutez, si ça vous va, demain matin, je vous invite, on fait un culte. Demain, on fait un culte. Saint-Esprit me pousse, on fait un culte. Il dit, oui, on vient demain matin. Ok. On prépare le culte, on fait un culte avec les enfants, on s'amuse, on fait des jeux. Et après, les enfants partent et on s'occupe d'eux. Je leur dis, mais alors, vous voulez aller plus loin? Oui. Et puis on a pris la décision que maintenant, une fois tous les dimanches, ils vont se rencontrer. Donc l'église de Honfleur est partie. D'accord? Mais si je me taisais, si je posais pas de questions, s'il n'y avait pas ce feu qui brûle là, il faut que ça bouge. Moi, c'est pas moi. Moi, si c'était moi, je reste dans le canapé, Alexis. Il s'embête pas, Alexis. Moi, je suis tranquille. Il fait beau, on fleure, c'est bien. Pourquoi je vais m'embêter à chercher plus? Mais ça brûle en toi. Et là, tu proclames quelque chose et il se passe quelque chose. Et l'église, vous allez voir, ça va démarrer. Un truc fou. Alors, mon père, il était fou. Il est heureux, hein, vous savez, lui, dès qu'il y a des implantations, c'est son truc. Mais vraiment, il y a la main de Dieu. Et partout où on passe, on a besoin de ce feu parce qu'on vit dans un monde, le courant, il nous emmène. On traverse ce Jourdain pour aller en terre promise. Notre terre promise, c'est d'aller retrouver notre Seigneur et Sauveur. Le problème, c'est que on peut être gentil, on peut être bon, on peut avoir tout ce qu'on veut, tous les fruits de l'esprit, mais si on n'a pas une puissance, eh ben, c'est l'autre puissance, c'est le courant qui nous tire, et à un moment donné, tu craques. On a besoin d'une puissance. Ça va? Alors, acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est quelque chose qui n'était pas pour avant, qui est encore pour aujourd'hui, c'est encore véridique, c'est quelque chose qui se vit depuis des milliers d'années. Les gens sont parfois scandalisés de ce qui se passe, parce que comme ils l'étaient à l'époque, ils sont remplis de vin doux, comme l'a dit Thierry, mais c'est une puissance. C'est quelque chose qui s'explique pas. Quand Christ vient en toi, il te change, il te transforme. Voilà, c'est personnel. C'est quelque chose qui te fait du bien. Voilà, Jésus, tu me fais du bien, tu t'occupes de moi. On dit, ma foi est personnelle parce que t'as un contact personnel avec Dieu. Il s'occupe de toi. C'est ton papa qui vraiment s'occupe de toi. Mais le Saint-Esprit, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. C'est une puissance pour libérer les autres. Ça explose. Là où dans les têtes, c'est bloqué. Toi, t'as une puissance en toi. Ça se manifeste d'une manière ou d'une autre. On va pas mettre des mots, c'est compliqué, mais ça se manifeste et là les tout explose et ça libère. Ça va? On dit qu'on est libre. OK, très bien. Alors on va lire un verset en plus juste pour conclure. Alors si tu peux mettre 2 Corinthiens 3 versets 1 à 18. C'est bon. Alors, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Donc c'est Paul qui parle, hein. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. D'accord? On est ministre d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, ce qu'ils ont vécu, c'était glorieux. À cause, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse. Ils ne pouvaient même pas le regarder. Bien que cette gloire fût passagère, c'était pour un temps. Combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, Si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent, lorsque les cœurs font demi-tour, alors là, ça nous parle un peu du peuple, hein, mais pensez à vous, lorsque ton cœur se convertit, lorsque ton cœur se tourne à Dieu, le voile est ôté. Ça marche ? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là et là, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus qui remplit, c'est celui qui agit tout, qui fait tout en nous. Mais le Saint-Esprit est une personne, il veut se manifester ce matin. Est-ce que c'est juste? Alors fais de l'avenir ton ami. Il faut que le lendemain soit pas juste une répétition de ta routine d'aujourd'hui. La première chose à faire, c'est change de direction. Alors pour ceux qui ont jamais accepté Dieu, t'as besoin de dire Jésus, je suis là. J'ai entendu ce matin, je comprends rien. Mais je veux voir, pour nous qui avons déjà accepté Jésus, parfois il y a du compromis, il y a certaines choses qui nous attachent encore, d'accord? Et il faut tout faire, ce que Josué leur a dit quand il leur dit « consacrez-vous, fais tout maintenant, tout ce qui est en ton pouvoir pour ce qui te retient maintenant ne te retienne plus, et moi je vais m'occuper de toi. » Alors on a besoin de dire « Seigneur, voilà, je fais un point, il y a ça qui me retient, je veux me tourner, parfois on a du mal à se tourner, c'est difficile. » Saint-Esprit, aide-moi maintenant. Hop, on se tourne. On se convertit. On a besoin de se convertir à nouveau tous les jours. Moi, je vous le dis. Hein. C'est pas juste une fois. Hein. Jésus, je suis là ce matin. Je veux te suivre. Je veux encore aller plus loin. C'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Reconnaissance à Dieu. Seigneur, je reconnais ce que tu as fait. Dans ma vie, il y a des autels. J'ai fait un autel. Là, j'étais comme ça. Et je me souviens de comment j'étais. Seigneur, je te loue parce que tu m'as transformé. Deuxième chose. Et la troisième, c'était quoi? La patience dans les promesses de Dieu. Seigneur, maintenant tu m'as donné des promesses. Seigneur, j'ai un avenir meilleur. La parole de Dieu me dit que je suis une nouvelle créature, que je peux aller vers des choses nouvelles. Seigneur, je les vois pas. Seigneur, c'est compliqué dans ma vie. Il y a un Jourdain, il y a des difficultés, mais j'ai besoin de quelque chose. Et là, tu as besoin d'une puissance qui vient sur toi. Tu patientes et le Saint-Esprit te remplit. Ça marche? Alors, on va prier. Important, hein, si on parle, on prie pas... Très humain, tout ça. Donc voilà, on a parlé à nos têtes ce matin. Tout ça, c'est intellectuel. Maintenant, on va laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs. C'est pas Alexis qui parle, c'est pas ceux qui sont là. C'est le Saint-Esprit est une puissance. Il est une puissance. Alors, Sandy, Paul, si vous pouvez venir, Julien, la louange là. On a du temps. On va prendre le temps. Alors la louange, c'est pas la louange qui baptise du Saint-Esprit. Alors le baptême du Saint-Esprit, c'est pas juste une fois, d'accord? C'est tu reçois une puissance une fois, mais c'est constamment, c'est une attitude. C'est Seigneur, je veux continuellement être rempli de toi. C'est être violent, faut être un violent, faut dire Seigneur, encore aujourd'hui c'est dur dans ma vie, mais je veux encore être rempli de toi. C'est une attitude de combattant, jour après jour. Seigneur, viens, je veux être quelqu'un de différent, je veux vivre ta puissance, ton onction. Et là, ça tombe, ça marche? Donc j'ai parlé de beaucoup de choses. Ça marche, mais je veux que vous puissiez comprendre. Il y avait une ancienne alliance. Il y a une nouvelle alliance. L'ancienne a été glorieuse. La nôtre est encore bien plus glorieuse. Dieu vit en toi. T'as plus juste besoin. T'es porteur de la présence de Dieu. La présence de Dieu est sur toi, mais elle est en toi surtout. Ça va? Une vie nouvelle. Romain, c'est bon? Tu réfléchis trop, toi. Oh là là. On va prier, on va prier. Alors les louangistes, ils vont nous faire un son. Puis on va se lever, on va se détendre. Josine, tu peux venir ici, s'il te plaît? Alors Josine, elle avait reçu quelque chose. Alors vas-y.
En fait, ce que j'ai reçu pendant la louange, c'est que le Seigneur, en fait, il me disait qu'il y a la présence de Dieu parmi nous. Mais en fait, il y en a certains, en fait, où les cœurs sont durcis. Et en fait, le Seigneur, il disait vraiment que, il est mort à la croix, en fait, et il était ressuscité. Et en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a ressuscité. Et ce même Esprit, en fait, est parmi nous. Et il y en a, en fait, Dieu, il veut vraiment vous visiter, mais en fait, arrêtez de contrôler les choses. Parce que, l'Esprit de Dieu, c'est la vie. Et Dieu est amour, il est vie, et il veut vraiment parler au cœur et je pense que Dieu est bon, Dieu est vraiment bon et je savais pas ce qu'Alex allait prêcher en fait. Moi ça m'a coûté de venir lui parler. Je vous dis ça parce que c'est vraiment pour que vous puissiez réaliser en fait l'importance que c'est. Je disais Seigneur non, je veux pas. Le Seigneur me dit non, vas-y. Ce matin je suis là, j'ai eu une nuit difficile, c'était difficile pour moi au boulot hier et je suis quand même venue ce matin, mais je savais après j'ai su pourquoi je suis venue parce que Dieu avait un message à donner. Et je veux vraiment vous encourager à ne pas réfléchir. Alex l'a dit, il a prêché sur ça. C'est que Dieu ce matin et il veut faire quelque chose. Et c'est pas que ce matin en fait, mais avant ça, il faut que vous preniez votre audace en fait. Seigneur, je veux me laisser visiter par toi. Mais ne partez pas en fait sans vraiment vous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Amen.
Amen. Alors on va se débloquer un peu. Au lieu de baisser vos têtes là comme des bons religieux. Vous regardez un petit peu le ciel, là. Vous dites, Seigneur, c'est du ciel que ça vient. J'ai besoin de toi. Alors maintenant, je vais prier. Commence à prier avec moi, d'accord? Rentrez dans les choses de Dieu. Alors, Saint-Esprit.